Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webcast intitulé « Réussir vos transactions dans un contexte Covid ». Je suis Michael Edjam, je suis associé au sein des équipes Transaction Services de PwC et avec mes associés Erwan Kolder et Frédéric Spinerin, nous allons discuter au cours des 30 prochaines minutes de la manière dont la crise que nous traversons actuellement impacte les process de transaction. Parlons principalement des transactions acquisition, cession, fusion dans des environnements dits non cotés. Voilà. Les environnements cotés, comme par exemple les OPA, étant d'autres problématiques que nous ne traiterons pas au cours de ce cours. À l'issue de notre présentation, qui, comme je vous le disais, durera à peu près une trentaine de minutes, vous pourrez poser des questions. D'ailleurs, vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation et puis je pense qu'on les traitera à la fin. Comme je vous le disais, j'ai à mes côtés Erwan Kolder, qui est notre associé responsable des équipes Transaction Services pour la France et le Maghreb. Bonjour Erwan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Bonjour Mike, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis donc Erwan Kolder, je suis responsable du Transaction Services de PwC. Je suis associé de ce département depuis une quinzaine d'années. Je travaille principalement sur des missions pour des clients corporate et private equity. J'ai eu l'occasion de travailler aussi à l'étranger. J'ai travaillé au Moyen-Orient, j'ai travaillé aux États-Unis. Et depuis deux ans, j'ai la responsabilité de la direction du Transaction Services en France.
D'accord, merci beaucoup Erwan. Et j'ai également à mes côtés Frédéric Spinerin, qui est également associé au sein de nos équipes Transaction Services et qui porte l'offre SPA. Bonjour Frédéric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous parler de ton offre, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Frédéric Spilerin, je suis associé au sein du Transaction Services de PwC et PwC dispose d'une équipe de spécialistes dédiés sur ce qu'on appelle l'offre SPA. C'est-à-dire que cette équipe de PwC revoit les clauses financières des contrats d'acquisition-cession ainsi que des pactes d'actionnaires, comme par exemple les définitions, les formules de prix, les principes comptables, les clauses de sortie. Et notre objectif est d'aider nos clients à optimiser ces clauses financières et de réduire l'incertitude quant à leur application après le closing. Et ensuite, généralement, nous aidons nos clients à optimiser ces clauses d'ajustement de prix.
D'accord. Et tu traites à peu près quel volume de transactions en moyenne par an?
Généralement, l'équipe revoit environ 70 contrats d'acquisition-cession par an. Et je fais ça depuis une petite dizaine d'années, donc bientôt les 1000.
Donc, c'est un poste d'observation de la structuration des deals qui est assez clé. Et d'ailleurs, tu as pu constater un certain nombre de changements depuis ces quelques mois, dont tu nous parleras un petit peu plus tard, n'est-ce pas?
Exactement.
D'accord. Erwan, pour commencer cette présentation, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le marché? On a l'impression, de notre côté, que à partir du mois de mars, quand le confinement s'est mis en place, on a eu une phase de sidération où les transactions qui étaient en cours peut-être ont continué, mais on n'a pas eu de nouvelles transactions. Donc, on a eu un printemps qui était quelque peu, je dirais, calme. Puis après, dès l'été, on a constaté une reprise des transactions qui était assez significative. Est-ce que tu perçois ça également? Et puis surtout, qu'est-ce qui a changé dans notre manière de regarder les deals et dont les deals se font?
Oui, Mike, c'est une excellente question. Donc, qu'est-ce qui a changé pendant depuis la période, enfin depuis le début de la crise sanitaire? D'abord, je crois qu'il faut parler du fait que le marché lui-même a changé. Le principal changement que l'on a noté, c'est l'évolution, c'est la forte diminution du volume de transactions. La forte diminution du volume de transactions, et on l'a vu au premier semestre, on part d'une diminution de l'ordre de 50%. Essentiellement sur le deuxième trimestre, donc la période de confinement et de début du déconfinement, où on a vu, comme tu le disais, un très fort ralentissement du niveau d'activité. Ça c'est un des changements structurels du marché et ça a effectivement des implications sur la façon dont on va faire les transactions et dont les process vont être conduits par la suite. Ce que l'on a vu, c'est qu'à partir de mai et de juin, on a vu une reprise progressive du volume de transactions avec une montée en puissance. Et depuis la rentrée, depuis septembre, on observe une vraie accélération du rythme de transactions pour un retour à la quasi-normale comparé au niveau, en tout cas, des années précédentes. Donc ça, c'était effectivement un premier changement important à avoir en tête, parce que derrière, ça veut aussi dire que même s'il y a reprise, la reprise, elle est contrastée. En fait, la crise sanitaire, comme bien évidemment vous le savez, a touché de manière différente les sociétés. Et de ce fait, on observe la fermeture de certains pans d'activité où certaines industries ne font plus l'objet de transactions. Je pense notamment, sans surprise, quand on parle de la distribution spécialisée, quand on parle des loisirs, quand on parle de l'aéronautique, c'est des secteurs dans lesquels il n'y a plus de transactions. Donc, en fait, on se retrouve avec un rétrécissement du marché du M&A. Une focalisation sur des actifs qui sont des actifs réputés résistants à la crise. Et donc, ces actifs, on peut penser notamment aux actifs dans la santé, aux actifs dans l'éducation, dans l'alimentaire, dans les services informatiques, où on voit que ce sont des secteurs qui ont bien résisté à la crise. Donc, on se retrouve avec une concentration. Donc, ça, c'est un changement du marché, de la structure du marché. A contrario, il y a certaines choses qui n'ont pas évolué. On a toujours le même nombre d'investisseurs financiers. On a un niveau de capitaux disponibles pour l'investissement qui est très important. On a eu, pendant la période de confinement et jusqu'à avant l'été, une réduction de la capacité de financement pour deux raisons, parce que les financements sur les marchés s'étaient fermés pendant la période du confinement, et puis une grande partie des financements étaient fléchés vers les prêts garantis par l'État au début de la crise. Donc en fait, au début, on a eu une raréfaction de l'offre de financement, mais on est revenu sur une situation normale. Donc en fait, on a des investisseurs d'un côté qui sont toujours en nombre, avec des capitaux abondants et une capacité de financement. Et de l'autre côté, on a une structure de marché où on a un vrai contraste entre les sociétés qui peuvent faire l'objet de transactions et celles qui, structurellement, sont fermées au M&A.
Donc, ça, c'est un changement. Erwan, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on a vu dans la presse, hein, les Échos ont parlé récemment, que les multiples de valorisation sont assez élevés, au-dessus de 10. Ce qui peut sembler contre-intuitif par rapport à la crise que nous sommes en train de traverser, mais qui est directement en réalité corrélée au type d'actifs qui sont actuellement sur le marché, donc des actifs qui sont Covid-proof et des actifs qui sont dans des secteurs qui se sont montrés particulièrement résilients dans un contexte de crise. Tu parlais de la santé, de l'éducation et de l'IT. Tout ça est évidemment corrélé.
Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça que je faisais cette introduction sur l'évolution du marché. On a des actifs qui résistent bien à la crise. Et on a une raréfaction du nombre de cibles potentielles. Donc, en fait, ça favorise le maintien, voire l'augmentation des prix, dès lors que les actifs qui sont mis sur le marché sont là aussi des actifs de qualité. Ce que l'on observe aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de transactions qui se sont faites dans le cadre de LBO, soit des LBO qui sont redevenus des LBO ou des sorties de LBO. Et donc, on était sur une nature d'actifs qui sont des actifs connus, qui sont connus par les acteurs du marché. Et on a vu récemment des comportements en matière de process d'acquisition qui sont beaucoup de préemptions, des process très accélérés, où on voyait des cibles, des process qu'on pensait durer plusieurs semaines, être préemptés par un acteur qui connaissait très bien l'actif. Donc, en fait, c'est assez paradoxal, dans un univers de crise sanitaire, de voir qu'on a des actifs qui sont mis sur le marché à une valorisation qui est maintenue, voire accrue, et qui partent très rapidement. Ça s'explique par le fait qu'il y a une vraie volonté de déployer du capital sur des actifs qui sont des actifs qui ont prouvé leur résilience et qui ont de très bonnes perspectives de développement. Donc ça c'est vraiment le schéma actuel du marché. Ce que l'on a vu aussi, c'est que on sent aussi qu'il y a un niveau de préparation sur le marché avec de plus en plus de transactions qui se préparent. Beaucoup d'acteurs se préparent à mettre des actifs sur le marché. On a un peu plus de visibilité sur les effets de la crise. On a un peu plus de recul. Alors certes, on vit une période de reconfinement, mais ce que l'on observe, c'est que le reconfinement, le deuxième confinement qu'on est en train de vivre, n'a pas le même impact sur le niveau des transactions. Il a en fait très peu d'impact sur le niveau des transactions, et ça s'explique par la nature des sociétés qui ont été mises sur le marché. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Si je devais faire une synthèse, je dirais qu'il y a un vrai changement de volume, une réduction, on va dire une focalisation accrue sur un nombre plus limité de secteurs. Même si on commence à voir de nouveaux secteurs rentrer dans le jeu, on a pendant la période qu'on vient de vivre eu une focalisation sur des actifs de qualité connus, maîtrisés, avec de bonnes ayant prouvé leur résilience et avec des bonnes perspectives de développement. Donc, ce qui fait que c'est un contexte particulier qui on verra comment il va évoluer à l'avenir, parce que voilà, il y aura de nouvelles industries qui vont s'ouvrir, enfin de nouveaux secteurs d'activité qui vont s'ouvrir et d'autres cibles qui vont venir sur le marché. J'ajouterai peut-être un dernier point, Mike. Ce que l'on observe aussi, c'est une forme de prudence de la part des vendeurs. C'est-à-dire que là où il y a un an, on pouvait se permettre de mettre des actifs sur le marché en se disant on a suffisamment d'acheteurs potentiels, de perspectives pour trouver un acheteur à cette cible. Maintenant, on observe qu'il y a une vraie prudence, un gros travail de préparation qui est fait, une prudence sur se dire à partir de quel moment je lance effectivement l'actif sur le marché. Parce que les vendeurs ne veulent pas prendre le risque d'avoir un process qui n'irait pas à son terme.
D'accord. Donc, si je résume, on a une situation qui n'est pas totalement figée et qui, parfois, en termes de lecture de la performance des sociétés, qui nous donne beaucoup de difficultés, des process qui, pour autant, sont extrêmement concurrentiels. Comment tout ça impacte notre manière, à nous, en tout cas d'un point de vue financier, de faire des due diligence, et comment ça impacte la structure de la transaction?
Alors, je répondrai sur la partie due diligence, je laisserai Frédéric compléter sur la partie structure. Ce qui est important, en fait, dans le travail que l'on fait sur les due diligence, c'est de bien donner des éléments objectifs, de bien expliquer ce qui s'est passé pendant cette période. Alors, encore une fois, on est dans une période un peu paradoxale parce qu'on regarde surtout des actifs qui ont bien traversé la crise. Donc, on a les explications qu'on doit donner sont des explications qui expliquent une situation plutôt favorable. Mais ce qu'on s'attache à faire déjà, c'est de comprendre. C'est vraiment une approche séquentielle où on va commencer déjà par comprendre la situation de la société avant le début de la crise. Quelles étaient les tendances? Quelle était sa performance? Qu'est-ce qu'on pouvait déjà voir comme signaux en matière d'activité? Ça, c'est vraiment le point de départ de nos analyses pour se dire, avant la crise, dans quel état était la société? Puis après, on va s'attacher à comprendre comment s'est passée la période de premier confinement, comment s'est passée la reprise et comment se passe, mais là, on est vraiment dans l'actualité, comment se passe le reconfinement? Et qu'est-ce qu'on va chercher à comprendre? On va chercher à comprendre à chaque fois qu'est-ce qui est un changement temporaire par rapport à un changement permanent. Donc, c'est vraiment, et je prendrai peut-être des exemples, si on raisonne sur l'aspect temporaire, on va se dire, dans les aspects temporaires, quelle est la nature du changement? Est-ce que l'effet est stabilisé ou n'est pas stabilisé? Et donc, on va par exemple, vous avez tous les coûts qui sont liés, si on raisonne en termes de coûts supplémentaires, tous les coûts qui sont liés à la mise en place des normes sanitaires ou les coûts qui ont pu être engendrés pour l'organisation du télétravail. Tout ça, c'est des coûts qu'on va chercher à isoler en se disant ces coûts-là, quelle est la part non récurrente et de ce fait, retraiter la performance de ces coûts-là. A contrario, on va aussi chercher à identifier les économies. Parce qu'il y a, certains, on le sait, il y a des effets d'aubaine.
Ne serait-ce que la réduction temporaire d'activité dont bénéficiaient beaucoup d'entreprises en France.
Tout à fait. On a certains exemples. Si on prend l'exemple d'une société qui a une force de vente, qui a l'habitude de sillonner la France en voiture et de dormir dans les hôtels, on voit bien que dans ce contexte-là, dans le contexte du confinement, toutes les visites de magasins avaient été arrêtées et donc il y avait une vraie économie qui a été faite. Donc celle-là, on la considère comme une économie temporaire qui n'a pas vocation à perdurer. Donc ça, c'est les effets. Après, on a des effets surprenants. On peut aussi avoir des effets d'aubaine sur le chiffre d'affaires. On le sait, on l'a vu, je ne citerai pas les acteurs, mais on a vu avec le reconfinement certains Français faire des stocks de produits de première nécessité et donc engendrer probablement des pics de suractivité au niveau de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est les effets temporaires. Et puis après, il y a les effets qui vont être des effets plus pérennes, qui vont constituer ce que j'appelle moi le nouveau normal. C'est-à-dire que la crise, qu'est-ce qu'elle va avoir eu comme effet à moyen terme sur le business model de la société? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, comme je disais, la force de vente, qui avait l'habitude de visiter X magasins par jour, d'être tout le temps sur la route, bah, peut-être qu'à la faveur de la crise, on va repenser le modèle, à la fois parce qu'on a vu des sujets d'amélioration de performance et que la demande de clients final s'est aussi adaptée. Donc, typiquement, ce genre d'évolution, ça va avoir une conséquence sur la nouvelle façon d'opérer de la société. Donc, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est comprendre cet élément-là et se dire, est-ce qu'il est stabilisé ou est-ce qu'il n'est pas encore stabilisé? Et en fonction de la stabilisation, on va être en mesure de faire des ajustements dans le résultat de la société.
D'accord. D'accord. Donc, effectivement, il y a de manière synthétique, il y a deux types d'ajustements. Des ajustements qui visent à corriger les effets non récurrents, les effets temporaires de la crise, de manière assez classique dans un exercice dit de quality of earnings et d'analyse de l'EBITDA, qui reste la base de la valorisation des groupes. Donc, tu parlais des surcoûts, mais il y a aussi les économies induites. Et puis, il y a un travail un petit peu plus profond qui consiste à vraiment comprendre comment la nature du business a changé. Si je puis me permettre, c'est là que la qualité du processus budgétaire des cibles que l'on regarde est clé, déjà pour comprendre le passé, parce qu'effectivement, en fonction de la qualité du processus budgétaire, l'écart qui pourrait exister entre notamment le 2020 budgété avec le 2020 réel nous permettra de mesurer, de pouvoir identifier chaque écart et de comprendre s'ils sont temporaires ou permanents. Et puis, derrière, la qualité de ce processus budgétaire va également déterminer la qualité de l'EBITDA FY21 sur laquelle de nombreuses valorisations sont en train d'être faites, n'est-ce pas?
Marie, je pense que c'est effectivement un bon point. On a parlé en fait de l'EBITDA 2020, mais j'ai presque tendance à dire l'EBITDA 2020, c'est presque de l'histoire déjà. On est en fin d'année, on va vite avoir une visibilité. La question qui se pose dans les transactions, c'est de se dire quel est le bon EBITDA qu'il faut prendre. Donc on fait un exercice de normalisation sur un 2020. On est parfois confronté à des limites parce que on ne peut pas nécessairement corriger la baisse du niveau d'activité. Donc après, la question, c'est est-ce que 2020 va être le bon EBITDA de référence ou est-ce qu'il faut même se projeter au-delà? On a vu certains secteurs dire qu'ils allaient revenir à un niveau normal d'activité en 2023, voire en 2024. Donc, la vraie question, c'est de se dire, il y a les exercices de normalisation que l'on fait sur 2020, parce que ça, c'est quelque chose de tangible. Et puis après, il y a l'exercice de dire, quand on a fait cet exercice, quel impact ça va avoir sur 2021? Comment le management de la société le prend en compte dans sa prévision budgétaire? Alors, on a autour de ça, il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet hein, sur la prévision budgétaire. On peut raisonner avec différents scénarios en se disant, et notamment parce qu'on l'a vu, on a eu un reconfinement, on espère ne pas avoir de nouveaux confinements, mais il y a quand même beaucoup d'aléas sur le contexte sanitaire. Si vous rajoutez à ça le fait que un certain nombre de groupes qu'on regarde sont aussi multi-pays, vous multipliez les incertitudes. Donc, ce qu'il faut peut-être, enfin, nous, une de nos recommandations et des discussions qu'on a pu avoir, c'est de se dire on a un base case sur notre budget, et après, la société va développer différents scénarios pour se dire, ben, si j'ai une continuation de mon confinement, voilà ce que ça pourrait avoir comme impact. Et donc, il y a vraiment cette discussion autour de la déformation ou pas du business model qu'on a en 2020, comment elle va impacter 2021. Et à quel moment je serai sur un retour à la nouvelle normalité.
D'accord. Ça, c'est sur les impacts EBITDA, Erwan, mais on imagine que dans un environnement changeant, l'EBITDA, qui est un élément extrêmement important, va changer. Le BFR va également changer. Et le BFR, pour apprécier la valorisation d'une société, est clé. Donc, tous les impacts identifiés sur l'EBITDA, il faudra en comprendre les conséquences sur le BFR.
Tout à fait. Alors, le BFR, c'est effectivement un chantier, de manière un peu familière, mais c'est effectivement un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention, parce que là aussi, le BFR, il subit des déformations importantes pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'activité a elle aussi évolué. Deuxième raison, parce qu'on a aussi eu des mesures de soutien qui ont été mises en place par le gouvernement et aussi, dans certains cas, on a vu des fournisseurs ou des clients mettre en place des accords pour aider certaines sociétés à traverser la crise. Donc, en fait, on se retrouve avec une vision du BFR qui est très déformée par rapport à ce qu'elle sera ou à ce qu'elle serait dans une nouvelle situation normale. Donc là, c'est important, et c'est important dans la fixation du prix, dans le passage entre la valeur d'entreprise et la valeur des titres, de fixer un niveau de BFR qui soit un niveau normatif. Et l'exercice n'est pas simple, parce que comme il y a des éléments objectifs, hein, les retards de paiement fournisseurs, ça c'est un élément objectif. Les décalages de charges sociales, c'est un élément objectif. L'impact de la réduction d'activité sur le niveau de stock, ça devient un peu plus compliqué. L'impact de la réduction de l'activité sur le niveau de créance, il faut aussi l'apprécier. Il y a tout un tas de facteurs qu'il faut apprécier. Le changement de sourcing dans certains cas, où on a vu se dire, certains pays sont fermés ou ont des difficultés, j'ai réorganisé ma chaîne logistique et de ce fait, je peux avoir modifié mes conditions d'achat, mes conditions d'approvisionnement, je constitue des stocks. Et puis, il y a eu aussi des phénomènes qui sont liés quand on est, par exemple, un distributeur. On peut avoir des phénomènes de déstockage, restockage. Il faut avoir une vision fine pour être en mesure de se dire quel est le BFR normal dans une activité normale, parce que c'est là-dessus que le prix des titres doit être déterminé. Et ça, D'accord. c'est important. Et peut-être, Mike, j'anticipe sur une de tes prochaines questions. Il y a aussi un sujet qui est important. Donc, on a vu les EBITDA, le BFR. Il faut bien regarder le sujet des CAPEX. Il faut bien regarder le sujet des engagements qui pourraient être pris par la société. Parce que là aussi, ça va jouer sur ce que l'on voit beaucoup, et sans surprise, c'est que dans un contexte difficile de tension sur la trésorerie, un certain nombre de projets d'investissement sont décalés. Et donc, il faut apprécier dans quelle mesure. Quel traitement réservé en fait à ce décalage ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est rattrapé ? Est-ce qu'il a été repris en compte dans le business plan ? Est-ce qu'il n'a pas été repris en compte ? Est-ce qu'on considère que c'est un élément d'ajustement de dette ? Il y a un certain nombre de discussions, et pour être en mesure d'avoir cette discussion, il faut vraiment faire une analyse fine.
D'accord. Donc, beaucoup d'effets de rattrapage que traditionnellement dans les due diligence nous réalisons, mais qui là il faut être encore un peu plus vigilant encore parce que leur impact sur la trésorerie et donc sur la dette nette qui se prise en compte au jour de la valorisation de la société, donc au closing, sont assez clés. Sur la structuration des transactions, Erwan et Frédéric, toi qui vois beaucoup de contrats d'acquisition, est-ce que vous avez vu des changements ? Parce que traditionnellement, on avait plusieurs mécanismes, des logbooks, des completion accounts. Qu'est-ce qu'on observe actuellement sur la structuration des deals ?
La structuration des deals, on observe quelques évolutions. Elles sont pour l'instant encore limitées et il faut laisser du temps au temps. On n'a pas encore beaucoup de recul. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les LBO secondaires, tertiaires et ultérieures, là-dessus, et Erwan l'a déjà évoqué, il y a peu de changements. Les process s'accélèrent. Et on a toujours des clauses de préfixe, de lockbox, puisque bon, finalement, ça se fait avec des fonds d'investissement. Voilà, ça se fait même encore plus vite qu'avant. Dans le domaine des corporates, maintenant,
je ne sais pas à quel point notre auditoire est familier des deux mécanismes lockbox et completion account. Est-ce que c'est compliqué de résumer ça en un mot, mais si lockbox versus completion account, de quoi parle-t-on? Juste en deux mots.
Ah, bah alors, on va le faire en trois mots. Donc, le lockbox est un prix fixe, c'est-à-dire vous payez un montant fixe au closing et ce prix n'est sujet à aucun ajustement. Donc, de façon simplifiée, le lockbox, c'est la même chose que quand vous allez à la boulangerie, vous achetez votre baguette, vous payez votre baguette, bon, la baguette étant les actions d'une société, vous repartez. Et puis c'est fini. Voilà. Ensuite, l'ajustement de prix fonctionne de la façon suivante. Vous payez un prix estimé à la date de réalisation, une sorte d'acompte, mais un acompte qui va représenter l'essentiel du prix d'acquisition cession. Et ensuite, après la date de réalisation, il va y avoir un ajustement de prix. On va calculer le prix sur une base réelle et on va faire la différence entre le prix réel et le prix qui a été payé au closing. Ça se passe durant un processus contradictoire entre les acquéreurs et les cédants. Et donc, c'est ce mécanisme-là, on s'attendait finalement à une recrudescence de clauses d'ajustement de prix. Elles sont plus nombreuses, c'est vrai. Maintenant, quand on est à l'achat, elle présente un gros avantage, c'est qu'elle protège l'acquéreur des aléas de l'activité. C'est-à-dire que si vous signez un contrat et que vous avez un closing qui va se dérouler dans un certain nombre de mois, il y a un certain aléa. Est-ce que l'activité de la société va être soutenue, moins soutenue, pas soutenue? Est-ce que s'il y a un confinement, il risque d'y avoir des détériorations? Donc ça va avoir un impact sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA. Et donc, ça va avoir un impact sur la trésorerie nette et le BFR à la date de réalisation qui automatiquement refléteront ce qui s'est passé les mois précédents. S'ils avaient moins de chiffre d'affaires et moins d'EBITDA, bah, vous aurez moins de BFR à la date de réalisation, moins de cash. Et donc, ça induit donc une sorte de protection assez naturelle. Bon, mais donc ça, c'est un mécanisme favorable aux acquéreurs. Maintenant, les clauses de préfixe de lockbox sont envisageables et présentent plus de risques. Généralement, on prévoit un niveau d'activité au moment où on signe un contrat. Le risque, c'est que si le niveau d'activité qui a été prévu et que vous avez reflété dans votre prix, in fine, s'avère inférieur, eh bien, c'est l'acquéreur finalement qui va subir cet aléa. Bon. Donc là-dessus, de façon très pragmatique, soit on a de la visibilité sur l'activité de la société, alors ça dépend des secteurs d'activité, les choses où on a beaucoup de contrats, où c'est très contractualisé, où on a beaucoup des contrats plus ou moins long terme ou des abonnements, des choses comme ça, on a une bonne visibilité et peu d'aléas. Ça dépend aussi de la capacité de la cible à prévoir ses résultats. Donc, si on a une bonne visibilité, on peut garder la clause de prix fixe et lockbox. Dans le cas contraire, c'est déconseillé parce que finalement, en cas d'aléa, l'une des parties va en être de sa poche. Alors, on peut donner deux exemples qui sont antinomiques. Le premier, si vous voulez acheter en ce moment un groupe de restaurants, la clause de prix fixe me paraît assez hasardeuse puisque on ne sait pas très bien encore quand est-ce qu'ils vont rouvrir, à quelle vitesse le niveau d'activité va reprendre. Et donc, vous allez donner un prix et finalement, si le prix est figé, vous n'allez pas avoir de moyens finalement de payer un moindre prix. L'autre contre-exemple, c'est si vous avez très envie d'acheter des laboratoires d'analyse qui travaillent dans le domaine du Covid. Là-dessus, le niveau d'activité futur, n'est pas très prévisible, mais ça se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est une activité qui est en plein boom en ce moment, mais est-ce que finalement ils vont vendre 100 tests de Covid par jour, 150? Est-ce que ça va durer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois? Tout ça avant le closing. Donc finalement, ça représente aussi un aléa, là, qui est peut-être un petit peu plus du côté du vendeur. C'est pour cela que les clauses d'ajustement de prix sont plus souhaitables. Je souhaitais aussi dire un petit mot sur les earn-outs. C'est que Erwan a parlé du new normal ou du retour à la normale. Et lorsqu'on fait des valorisations sur des flux financiers futurs, va se poser inévitablement le niveau d'activité post-closing sur la première, deuxième, troisième année. Donc, s'il y a vraiment un gap, c'est-à-dire un niveau d'activité beaucoup plus élevé que le niveau actuel, l'acquéreur pourrait avoir un certain inconfort à figer totalement le prix et va essayer de différer une partie du prix. Donc, ça, c'est une option qui est disponible. Pour l'instant, elle est encore peu utilisée. On l'a vu dans un certain nombre de cas. Mais je pense que les vendeurs, comme l'a dit Erwan, essaient d'avoir beaucoup de visibilité, pas mal d'assurance sur les transactions. Et pour l'instant, les earn-outs sont un peu plus utilisés, mais ce n'est pas la panacée. Ils ne sont pas systématiques. Et donc, en tant qu'acquéreur, proposer un earn-out sur une grosse partie de la valorisation, c'est pas quelque chose qui marche. Voilà.
Les earn-out, ce n'est pas possible pour tous les types d'acteurs non plus qui animent le marché, notamment pour les fonds. C'est quand même plus compliqué. C'est un mécanisme qu'on va trouver dans des environnements entre acteurs industriels, on va dire. Par industriel, je n'entends pas nécessairement des acteurs de l'industrie, mais des acteurs corporate, des entreprises.
Exactement. C'est quelque chose, les fonds les utilisent très peu, parfois à l'achat, dans de rares exceptions. C'est plutôt sur un sujet donné, lorsqu'il y a une véritable incertitude sur un point de business, plutôt que sur le niveau d'activité.
D'accord. Frédéric, si on devait spécialiser, puisque l'idée c'est de réussir les transactions, sur des points d'attention particuliers qu'il faut absolument avoir dans des clauses d'ajustement de prix. Donc là, on est vraiment dans les clauses d'ajustement de prix dont tu venais de parler. Les points d'attention, si tu devais nous parler de deux points principaux.
Alors, je pense que les deux points les plus évidents sont les stocks et les niveaux des stocks. Erwan l'a dit, les niveaux d'activité ces derniers mois dans certains domaines, dans certaines industries étaient en berne. Et donc, il se peut que les cibles faisant l'objet de transactions disposent de stocks pléthoriques. Donc, ces stocks pléthoriques, au closing, va se poser la question de dans quelle mesure ils peuvent être vendus, ils peuvent être écoulés. Alors, s'il y a des phénomènes de saison, de renouvellement de stocks, de date de péremption, ça va probablement entraîner pas mal de discussions sur dans quelle mesure on va les provisionner. Ensuite, un autre sujet sur les stocks, c'est si j'ai beaucoup de stocks, j'en ai peu vendu, finalement, on va peut-être considérer qu'un certain nombre de stocks sont obsolescents. Et donc là-dessus, moi, ce que je recommande surtout aux vendeurs et même aux acquéreurs, pour que ça se passe bien par la suite, c'est finalement de discuter de ce sujet en amont, d'essayer de comprendre comment on va s'entendre sur une méthodologie, un principe comptable pour finalement déterminer le niveau des provisions des stocks à la date de réalisation. Parce que il va y avoir des discussions qui peuvent être fort longues. Si on a des perspectives de vente qui sont très faibles et qu'on a des niveaux de stock élevés, un acquéreur va être tenté de les déprécier. Va se poser aussi les problématiques des lancements. Dans certaines industries, il y a des lancements de nouveaux produits. Si les lancements ont été reportés, préalablement au lancement, on produit énormément de stock. Donc là-dessus, je dirais que moi, je privilégie la transparence, d'essayer de poser les problèmes sur la table avant de signer un contrat d'acquisition, plutôt que d'attendre et de se dire de toute façon, on verra. Parce que on verra, ça c'est aussi une tendance, c'est que on observe une assez grande agressivité des acquéreurs au moment des clauses d'ajustement de prix parce que certains ont l'impression qu'ils ont payé trop cher leur cible ou que des mauvaises nouvelles sont apparues, c'est-à-dire qu'ils espéraient un niveau d'activité plus élevé, ils essaient de se refaire en étant plus agressifs. Donc, ça veut dire que là-dessus, on a vraiment intérêt à poser les problèmes, de prévoir des méthodes de dépréciation précises avant, plutôt que de laisser à chaque partie le soin d'interpréter la façon dont on va déterminer les positions de stock. Ça, c'était mon premier point.
D'accord.
Et mon second point, c'est évident, en ce moment, on a des problèmes de liquidité, c'est-à-dire la question dans quelle mesure une créance client va être recouvrable. Si elle est échue depuis un mois, ça ne va pas poser de problème. Si elle est échue depuis 3 mois, là-dessus, ça va susciter des doutes. Si elle est échue depuis 6 mois, un acquéreur va être tenté de les déprécier. Donc là-dessus, ça implique et ça renforce le point d'Erwan dans le domaine des due diligence de faire des investigations assez précises sur le portefeuille client, la nature, d'identifier ceux qui sont en difficulté temporaire, ceux qui sont risquent d'être en difficulté malheureusement définitive, pour essayer de faire une idée avant de signer sur des méthodes probablement statistiques sur la façon dont on va provisionner ces comptes clients dans les comptes d'organisation. Le sujet, c'est que si on ne fait rien, on recule pour mieux sauter. Et donc, finalement, les discussions auront lieu post-closing dans les processus d'ajustement de prix. Et il est encore trop tôt pour le dire, mais ces discussions sont relativement tendues en ce moment. On recourt parfois à la menace de mettre un certain nombre de points en expertise. Donc, essayons de prévoir, essayons de cadrer les choses pour diminuer le risque d'exécution. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Frédéric, sur ces points. Donc, en résumé, un marché qui est somme toute encore très dynamique, centré sur un certain nombre de secteurs qui ont montré une résilience forte pour l'instant à la crise. On n'est pas encore sur un marché où on a vu arriver beaucoup d'actifs qui sont dans un espèce de pré-distress et ça arrivera peut-être une fois que les PGE deviendront remboursables. Donc un marché dynamique sur lequel il faut quand même beaucoup de vigilance sur la manière dont on aborde l'EBITDA de référence qui va servir à la valorisation et sur les mécanismes de valorisation qui vont être mis en place. Donc beaucoup d'attention à porter sur ces mécanismes de valorisation et sur la manière dont elles sont contractualisé. Voilà. C'est la fin de notre présentation formelle. On a quelques questions sur notre écran. On va essayer d'en traiter un certain nombre. Il y a une première question, qui est très spécifique à un secteur. Alors, on va peut-être aller vite parce qu'on n'a pas forcément de réponse. On nous demande quel est votre retour sur le M&A dans les énergies renouvelables. Est-ce qu'on voit une bulle de valo comme mentionné par le CEO de Total, M. Pouyanné. Voilà. D'une manière générale, comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme les secteurs qui sont actuellement en train d'animer le marché sont des secteurs très résilients avec des perspectives de prévisions budgétaires assez fortes, oui, les multiples sont forts d'une manière générale. Après, sur les énergies renouvelables en particulier, je ne sais pas si Erwan ou Frédéric, vous avez une visibilité là-dessus.
Non. J'ai assez confiance dans M. Pouyanné, en fait, sur ce sujet-là. Je pense que ce sujet des valorisations, d'abord, il est assez spécifique pour répondre partiellement à cette question. Il est très spécifique au secteur que vous allez regarder. Et je vois qu'il y a d'autres questions autour des négociations, du pouvoir du vendeur, du pouvoir de l'acheteur. Je pense qu'il faut, ce que montre la période actuelle, elle est un peu particulière dans le sens où on n'est pas sur un marché, on est sur un marché qui est plus étroit, comme je vous l'ai expliqué. Donc en fait, ça favorise l'émergence sur un bon actif, ça favorise l'émergence, sur un secteur qui est résilient, ça favorise l'émergence de, peut-être pas de bulles, mais en tout cas, ça soutient les valorisations. Ça a même tendance à les pousser vers le haut avec, comme je vous le disais aussi, on a un montant de liquidité à investir qui est important et de financement qui est important. Donc, ça réunit les conditions pour… Est-ce que c'est une bulle ? Je ne sais pas. En tout cas, ça va permettre… Et c'est ce qu'on a vu sur les transactions récentes. Alors, on n'a pas la visibilité complète sur les multiples ou les valorisations, mais pour celles qui ont été annoncées, on a vu les vendeurs annoncer des très bons returns par rapport à ce qu'ils avaient fait. Donc, implicitement, ça veut dire qu'ils ont bien vendu ces sociétés à des valorisations qu'ils espéraient, mais c'est aussi conditionné par le fait que les actifs qui sont mis sur le marché sont des actifs qui sont de qualité, des actifs compris, des actifs connus, et qui favorisent le fait que on est prêt à payer cher parce qu'on sait qu'ils résistent et on sait que la probabilité de perdre sa mise, elle est très limitée en fait. Et on a eu un stress case très fort au travers de la crise sanitaire. Donc, je pense que sur la notion de la bulle et des renouvelables, je ne suis pas l'expert des renouvelables, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on voit actuellement sur le marché. Je ne qualifierais pas ça de bulle ou pas. Ce que je vois, c'est qu'on a eu une décorrélation entre l'évolution de certaines catégories d'actifs sur le marché, sur les marchés publics, et puis les valorisations qui se sont maintenues. Un dernier point peut-être là-dessus, et je pense que ça fera l'objet d'une présentation spécifique dans une webcast plus tard, il faut aussi regarder ce qui s'est passé sur les marchés publics. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'évolution du Dow Jones. En fait, l'évolution du Dow Jones, elle masquait une survalorisation des actions des GAFA ou des sociétés technologiques et l'écroulement d'un certain nombre d'autres secteurs. Et en fait, ce que l'on voit nous aujourd'hui, c'est que sur les opérations de marché qui ne sont pas publiques, hein, qui sont des opérations sur du capitaux privés, on est un peu dans cette configuration, on a des actifs de qualité. Donc nécessairement, ça maintient ou ça accroît la valorisation.
Et donc, ça joue aussi sur le pouvoir, en fait, parce que c'est aussi une des questions, sur le pouvoir des négos, est-ce qu'il est du côté des acheteurs ou des vendeurs? En fait, la réalité, c'est que ça dépend de la qualité de l'actif et qu'en ce moment, ce sont des actifs de qualité qui sont le marché, donc les vendeurs ont quand même beaucoup de pouvoir. Ce qui nous permet de passer sur une autre question, parce qu'on nous demandait également, est-ce que la concurrence aujourd'hui sur les transactions fait-elle que les clauses d'ajustement sont plus difficiles à obtenir pour les acquéreurs? Frédéric, est-ce que tu vois effectivement que les vendeurs ont plus de pouvoir justement pour refuser certaines clauses qui sont proposées par les acquéreurs?
Non, je ne pense pas. Je pense que il n'y a pas de. On ne peut pas figer de règles. Je pense que ça dépend vraiment de la visibilité qu'on a sur les résultats futurs d'une cible, de l'environnement concurrentiel aussi. Si vous avez 5 ou 6 acquéreurs potentiels, ce sera peut-être plus difficile de passer des choses sur un ajustement de prix ou demander des choses sur les macros, des choses comme ça. Mais je pense que ça dépend vraiment de la transaction et puis aussi du temps qui va s'écouler entre le moment où vous signez finalement votre contrat d'acquisition-cession et la date de réalisation. Si la période elle est courte, ce sera d'autant plus difficile d'échapper à une clause de prix fixe. Et on peut peut-être rebondir aussi, je vois qu'il y a une autre question sur pourquoi vous dites que les fonds d'investissement font généralement des lockbox. Alors, on va être plus précis. Les fonds d'investissement, lorsqu'ils vendent des actifs, doivent faire des lockbox parce qu'ils ont l'obligation ou la nécessité de distribuer les fonds. Et s'il y a des ajustements de prix et si vous avez des garanties, ce sont des choses qui vous empêchent de distribuer les fonds. Donc, structurellement, à la vente, les fonds d'investissement vont essayer et arrivent généralement à faire des clauses de prix fixes. Et c'est d'autant plus facile sur les LBO qui sont secondaires et ultérieurs, puisque il y a une certaine habitude des fonds d'investissement, des managements et un certain confort sur l'information financière de ces sociétés.
J'ajouterais juste un point, en fait, c'est les commentaires qu'on a pu faire aujourd'hui sur l'approche, sur la structuration des contrats, elles sont valables dans un contexte particulier. Et ce contexte, je vous l'ai décrit, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment il va évoluer et quel type d'actifs on va avoir. On sait qu'il y a un certain nombre de groupes en France et à l'étranger qui se préparent à sortir des branches d'activité, à faire une revue de portefeuille comme c'est le cas. Et dans ces cas-là, on est dans un autre cadre de transaction sur un actif primaire. Et quand on rentre sur des actifs primaires, la dynamique est un peu différente. L'actif n'est pas connu. Et en plus, on a moins de certitude sur sa capacité à générer du cash. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on a plutôt tendance à avoir moins de préemption et plus de completion accounts. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais préciser.
Merci Arwan et merci Frédéric. On arrive à la fin du temps de notre webcast. Il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Ce que je vous encourage à faire, c'est n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On fera en sorte qu'il y ait une possibilité ou même via vous êtes inscrit via la communication qu'on a fait sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous envoyer des mails personnellement, que ce soit à Frédéric, à Erwan ou à moi-même sur LinkedIn, pour qu'on puisse continuer cette conversation. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rester connecté très rapidement pour pouvoir répondre au questionnaire de satisfaction qui nous permettra de mieux comprendre comment nous améliorer pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup à tous. Excellente journée et très bonne fête de fin d'année.
Merci à tous.